série d'émissions spéciales sur les ondes primitives dans le cadre du 55e congrès ICEM, Pédagogie Freinet, qui se déroule à Bétheny du 17 au 20 août. Depuis 1987, avec les nouvelles technologies, il est peut-être plus facile d'enregistrer et de faire un montage. Mais les témoignages de ce document sonore de 1987 que vous allez découvrir restent pertinents, sinon plus encore. Dès les années 1950, avec l'apparition des magnétophones et particulièrement dans le cadre des techniques Freinet, des jeunes ont mieux pris conscience de l'importance de l'expression orale et entrepris des correspondances sonores qui étaient de véritables réalisations radiophoniques. Le magnétophone s'est révélé l'outil pratique, facile d'emploi et très exigeant, recelant des possibilités éducatives remarquables. Dès l'origine de ce mouvement, Jean Thévenot, sur les chaînes de radiodiffusion de services publics, a témoigné de l'intérêt que les professionnels portaient à ces activités en diffusant régulièrement l'expression des jeunes et en contribuant de façon déterminante à la formation des enseignants dans ce domaine. Place au document radiophonique « Pratiquer la radio », réalisé en 1987 par les jeunes de l'école élémentaire de Saint-Simon-de-Borde, du club Magnétonnerre du collège Louvignares à Védène, des lycées François Mauriac à Bordeaux et Victor Louis à Talence.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute des Bahuts à l'assaut des Andes avec au programme de ce soir plusieurs rubriques réalisées par des lycéens. Ce soir, émission spéciale. Pourquoi les jeunes font-ils de la radio? Des écoliers, des collégiens, des lycéens, des professionnels répondent.
Faire de la radio, mon avis, c'est s'exprimer. Quand on arrive en sixième, même quand on est à l'école primaire, on sait parler. Mais ça nous développe le langage. Je veux dire qu'on arrive à avoir un langage plus perfectionné. On est moins timide, on arrive à être plus direct avec les gens.
D'abord, j'étais très timide au début, très renfermé. Et ça m'a permis de communiquer plus facilement avec les autres, le monde extérieur. Avec les personnes que je connaissais pas, que je connaissais mais pas bien. Ça m'a rapproché. Ça m'a permis de dire des choses que je pensais pas qu'un jour je dirais.
Je sais que moi, avant, j'avais honte de parler à une grande personne. Maintenant, je parle librement, quoi, comme j'en ai envie.
Mais d'abord, je suis venue une fois, j'ai vu une émission, puis j'ai vu que c'est vraiment intéressant. Puis de voir ce groupe-là, on est vraiment unis. Il y en a qui coupent, il y en a qui enregistrent, puis après on prépare l'émission, on s'entend, on rigole, c'est vraiment super.
La radio, c'est d'abord le direct. Mais s'adresser à des centaines d'auditeurs, c'est impressionnant.
Au début, quand on n'y a pas été, on a peur. C'est comme si on voyait une grande foule qui nous écoutait, et puis en fait, on voit rien du tout. Faut se dire, on parle avec des amis, puis c'est bon.
Moi, avant de faire une émission, j'avais le trac de parler dans le micro. Et puis après, quand j'ai dit là, les premiers mots, après, j'étais détendue. Je faisais comme si il y avait personne qui m'écoutait.
Aussi, quand je fais une émission en direct, j'ai plus peur que quand c'est une émission enregistrée sur cassette ou sur bande.
Et le problème de la peur, parce que les enfants ont peur lorsque c'est en direct. Ça se pose pas pour une animatrice?
Si. Bien sûr que ça se pose. C'est le trac. Hein. Le trac, je crois qu'on l'a toujours un peu. Il en faut un minimum parce que c'est ça qui fait bouger. Je crois que plus on a le goût de la perfection, plus on a le trac.
Vous préférez le direct ou le différé?
Je crois que je préfère le direct. Quoi. C'est toujours plus amusant. C'est souvent plus spontané. Et puis, il peut plus y avoir des surprises. Et une émission, c'est toujours un peu une aventure. Hein.
Rechercher l'aventure et la spontanéité, ce n'est pas improviser.
Quand on avait fait la revue de presse, on avait des papiers, on lisait, alors ça nous apprend à lire.
Nous, on lit comme ça, mais faut pas que ça s'entende qu'on lit.
Comme tu dis, Xavier, là, quand on fait une émission, normalement, on doit toujours avoir un petit papier sous les yeux. On a toute notre émission, puis au lieu que ce soit des phrases, on marque des mots, comme les journalistes.
Par exemple, c'est sur un thème et on l'aime bien ce thème. Alors donc on fait l'émission de radio, on a envie d'en parler, donc on sait ce qu'on doit dire. Alors moi je lis pas.
Moi Edwige, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu sais, il y a des émissions où faut quand même avoir un petit papier sous la main, sinon tu dis n'importe quoi et après ça...
Tu sais Sabine, à une émission ça s'apprend pas. Hein. C'est pas, ça va pas être une poésie. Hein. Ça s'apprend pas par cœur.
Est-ce que vous vous entraînez avant l'émission ou ça vient directement?
Une émission, elle est toujours préparée. Bon, je sais qui vient, je sais de quoi on va parler. Parfois, avant, je peux avoir des idées de petites interventions à faire. Bon, je le note sur un coin de papier, quoi. Et puis, je prépare le programme musical. Mais je m'entraîne pas, non, avant l'émission, non. Il n'y a pas de mystère. Une bonne émission, elle est préparée. Même si, il faut savoir être souple, il y a un cadre.
Est-ce que le fait de faire des émissions radio vous a permis d'avoir des contacts en dehors de votre établissement scolaire?
On est des lycéens, on est un milieu un peu fermé, on ne peut pas toujours parler de nous, il faut aller voir à l'extérieur, il faut sortir, on a un magnéto, on a des micros, on a des possibilités, on a envie de parler, on a envie de découvrir, mais ce n'est pas dans un lycée qu'on peut le faire. Hein.
Parce qu'il y a une différence entre le travail avec le magnétophone et le travail avec la radio.
Il y a une différence, c'est que... Quand on enregistre quelqu'un, bon, ben, on enregistre même s'il dit des choses qui ne nous intéressent pas. Et après, quand on fait le montage, bon, on sélectionne ce qui nous plaît, et en espérant que ça plaira aux auditeurs.
Eh bien moi, je veux dire qu'il faut que ce soit pas très long, il faut que ce soit clair et net, il faut qu'il reste que des choses importantes pour que ça plaise aux gens.
Quand on fait un débat... Il y a quelques fautes, quelquefois on bafouille, mais après on s'amuse à découper tout et après ça fait un super montage et il n'y a pas d'interruption, tout ça.
D'après moi, quand on dit une phrase là, maintenant, bon ça nous plaît, mais une fois qu'on la réécoute, c'est pas bien, alors on l'enlève.
C'est quoi un enregistrement propre?
C'est un bel enregistrement. Si on enregistre quelqu'un en dehors, si on a une bande avec des cracks, des machins derrière la voix, c'est pas joli, donc faut essayer de les retirer. Parfois, il y a des blancs dans la conversation où la personne peut voir un moment où elle est un peu désarçonnée, où elle dit beaucoup « eux », etc. Comme c'est pas en direct, on a la possibilité d'arranger tout ça pour réduire le propos au temps minimum et le plus clair possible. Alors, sur la bande, on coupe tout ça. C'est ce qu'on appelle le montage. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important en radio, c'est que chaque minute est précieuse et à l'antenne, on ne doit dire que l'essentiel.
Quand vous faites le montage, est-ce que vous ne risquez pas de trahir la pensée de celui que vous interrogez?
Ben en fait, notre but, c'est pas de censurer, c'est pas d'enlever ce qu'il dit, mais c'est de faire ressortir justement l'idée principale que la personne interrogée a dite et d'enlever tous les parasites qui sont autour.
Pour réussir une émission ou un enregistrement, il faut absolument obéir à des exigences techniques et avoir une bonne organisation.
Comment tenir le micro?
Eh bien, il faut tenir le micro de façon à ne pas enregistrer de bruit inattendu. Par exemple, le micro, là, si je le gratte. Mais je ne parle pas, mais regardez l'aiguille. On n'entend rien. Hein? Et sur l'enregistrement, vous allez découvrir des bruits peu agréables qui auraient pu couvrir ma voix au moment où je parlais. On ne s'en doute pas de cette chose-là. Donc pour éviter cela, il faut tenir le micro sans bouger les doigts et sans que le câble frotte sur quelque chose parce qu'il risque aussi de transporter des bruits qu'on n'entend pas mais qui sont interprétés par le micro. Alors il faut tenir le micro d'une certaine façon pour qu'on n'ait pas la tentation de bouger ses doigts. Je le tiens entre deux doigts. Bon, je fais une boucle de fil de sécurité et je tiens mon micro comme ça. Si j'accroche le câble ou si je vais trop loin, ben c'est mon doigt qui sera prévenu que je suis trop loin. Le micro ne sera pas arraché de mes deux doigts. Et en même temps, si le câble frotte sur quelque chose, eh bien, le bruit ne passera pas autour du doigt. Voilà. Ce type de micro peut se tenir comme ça.
Quelle est la première précaution à prendre avant un enregistrement?
avant un enregistrement, bien, quand vous avez votre bande, que vous êtes sûr de l'alimentation de l'appareil, que vous avez un local qui n'est pas perturbé par des bruits ambiants, que vous pouvez mettre le micro assez près de la personne qui parle, bien, vous avez pris les premières précautions nécessaires pour avoir un bon enregistrement. Ici, on s'est mis dans un local qui résonne un peu. Ça peut parfois être nuisible si on ne peut pas approcher la personne d'assez près, hein, parce qu'on aurait trop de réverbération. Là, j'en ai oublié une des précautions. C'est que lorsqu'on fait l'enregistrement, il faut penser à ce qu'on en fera après. Autrement dit, le montage, ça commence au moment de l'enregistrement, et ceux qui sont présents, et à plus forte raison celui qui tient le micro, non seulement il doit surveiller sa bande pour être sûr de ne pas enregistrer dans les courants d'air quand elle sera terminée, il doit surveiller le niveau de l'enregistrement, soit en tournant le bouton, soit en approchant s'il veut plus fort, en éloignant s'il veut moins fort. Bon, ça c'est la routine, on fait toujours ça. Mais il faut aussi qu'il soit très attentif à ce qui est dit, parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a une explication qui n'est pas très évidente, il faut recommencer, il faut reposer la question.
Pourquoi faut-il réécouter la bande au début de l'enregistrement ?
Oui, vous enregistrez un petit peu, hein, parce qu'en général, au début d'un interview, ou au début d'une présentation, au début d'un reportage, c'est rare qu'on a tout de suite des choses vraiment importantes. Hein. Il y a un temps pendant lequel le preneur de son et les gens qui sont autour établissent une relation avec la personne qui va s'exprimer. Et ce n'est pas immédiat, à moins de tomber sur quelqu'un qui est à l'aise tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse passer une ou deux minutes, puis on dit « Ah bon, on va vérifier si le matériel fonctionne. » Alors, vous rebobinez un petit peu, puis vous écoutez très attentivement. Alors, ça va si c'est bon. Alors, vous êtes sûr que votre bande n'est pas chargée à l'envers, vous êtes sûr que vous pilez des bits, vous êtes sûr que votre micro est bien branché. Vous écoutez bien pour savoir s'il n'y a pas trop de bruit ambiant. Parce que si on a trop et que ça ne va pas, ce n'est pas la peine de perdre son temps, vaut mieux aller ailleurs. Hein. Et pendant ce temps-là, la personne qui aura eu le temps de respirer pendant que vous manœuvrez et qui se sent entendue dira « Oh, bah, après tout, ce n'est pas si dur que ça, on va continuer. » Puis elle devient plus à l'aise. Et alors vous gagnez sur tous les plans. Vous êtes sûr que techniquement ça fonctionne et que la personne est plus détendue qu'au départ. La relation est meilleure.
Pourquoi, Didier, tu n'es jamais rentré dans la régie ?
Eh ben, je préférais m'exprimer au micro. Et puis la régie, ça m'intéressait pas trop. Je trouvais ça compliqué.
Pourquoi tu aimerais être régisseur ?
Voilà. Ben, d'abord, parce que ça commande l'émission. On stabilise l'émission avec la table.
C'est un homme important. C'est lui qui reçoit les montages qui ont été réalisés par les gens qui travaillent à l'extérieur. Bon, bien, c'est quand même lui qui les met sur magnétophone et c'est quand même le régisseur qui les envoie en direct. C'est quand même lui qui fait passer les disques. Quand il y a quelqu'un qui parle, bon, mais c'est quand même lui qui s'occupe d'ouvrir le micro pour qu'on l'entende. Bon, il n'y est pas, le micro il reste fermé.
Une bonne émission dépend en grande partie d'une bonne veille de régie.
Et une bonne feuille de régie facilite justement la communication entre l'animateur et le technicien, ce qui est important.
Mais alors s'il ne faudrait pas finalement une certaine compatibilité entre l'animateur et le régisseur, afin d'éviter bon, que le régisseur ne prenne un trop grand pouvoir sur l'animateur, ou inversement, ce qui est beaucoup plus difficile. Hein.
Et c'est quoi l'animateur de l'émission ?
Ben, c'est celui qui dirige l'émission, qui quand il y a des trous, des blancs, il essaie de les combler, c'est celui qui pose les questions, qui fait parler, enfin qui essaie de faire parler.
Pourquoi vous tenez à être animateur ?
Parce que c'est chouette, je sais pas, moi on commande.
On se régale, c'est cool. Celui qui est au bout de la table et c'est celui qui lance les débats, qui coordonne.
C'est celui qui a du pouvoir et puis c'est celui qui est un peu le maître du jeu.
Qu'est-ce que tu éprouvais quand tu animais une émission ?
Alors, d'abord, bon, je sais pas, d'abord de la joie en premier, moi j'étais content parce que, en fait, je pouvais m'exprimer. Et puis après, on avait des témoignages de gens, c'est vachement intéressant, moi je trouve, de parler avec des gens.
Il est très important que l'animateur s'amuse dans son émission, que les invités se sentent bien, mais la chose qui passe en premier, c'est l'auditeur. Et pour l'auditeur, il faut que ce soit du bon travail. Donc, on est obligé de le préparer. On est là pour distraire les gens, pour leur donner la possibilité d'apprendre des choses nouvelles, mais sans pour autant les forcer, pour donner un résultat qui soit agréable à écouter et de qualité. On est là pour avoir le contact avec l'auditeur.
Quand je fais un enregistrement avec quelqu'un, c'est pour mon plaisir. Et surtout, c'est bien de parler avec quelqu'un, ça apprend des choses, ça. Aussi, ça fait peut-être plaisir aux grandes personnes qu'on les interviewe.
Ouais, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont tendance à dire « Oh, maintenant, les jeunes, ils ne s'intéressent plus à grand-chose. » Ils peuvent voir que c'est pas toujours vrai.
C'est en nous faisant confiance par rapport au matériel, tout ça, que vous nous apprenez à être autonome.
C'est une évolution. Je pense que l'autonomie est une perpétuelle évolution.
Moi, faire un entretien, c'est ce que j'aime bien parce que il y en a qui disent leurs raisons, il y en a d'autres qui sont pas d'accord. Ben, ça nous apprend à mieux connaître la vie, quoi. Et puis réfléchir aussi.
Je veux dire que pour moi, parler avec d'autres, un peu sortir de chez soi, ça nous apprend à mûrir, à se développer, c'est ça.
C'était une émission spéciale « Pourquoi les jeunes font-ils de la radio ?» avec des élèves de l'école publique de Saint-Simon-de-Borde, du collège Louvignares de Vedène et de l'émission « Les Bahuts à l'assaut des ondes » de Bordeaux.
Quand j'écoute la radio, le matin quand je m'éveille, c'est tous les jours pareil. À la radio, on chante que tout est beau, qu'il faut croire en demain et que tout ira très bien. Tous les jours, quand j'écoute la radio, on cherche la félicité sur tous les chemins d'été. On dit que l'amour est là entre deux commerciaux. Ce que tu veux, je l'ai. Allons, laisse-moi t'aimer.
Votre information, voici maintenant quelques documents. D'abord, un exemple de montage lors de la première rencontre d'enfants sur la radio organisée à Avignon en 1983.
Il est 8h, le journal de Radio Vaucluse est présenté par Anne Berger. Bonjour Anne.
Bonjour. Conseil municipal. Hier soir à Avignon, les élus de l'opposition municipale protestent contre la manière dont la municipalité conçoit la planification locale. La radio des enfants, vous la découvrirez dans ce journal et elle vous étonnera. Et dans cette édition également, les principales rencontres sportives du week-end. Nous vous avons déjà parlé de ces rencontres nationales de la radio, d'un genre tout à fait particulier, qui ont lieu en ce moment à l'école normale d'Avignon. Des dizaines d'enfants venus de toute la France avec leurs professeurs découvrent, fabriquent et mettent en forme une radio destinée avant tout à des fins pédagogiques, leur apprendre à s'exprimer, à maîtriser une technique et un média pour progresser dans la connaissance des choses et des hommes. On retrouve là des théories et des pratiques chères à Freinet. D'ailleurs, ce sont des professeurs de l'Institut coopératif de l'école moderne, créé par Freinet, qui sont à l'origine de ces rencontres. Alors je vous propose tout simplement 1 minute 10 de cours de radio, l'extrait d'un dialogue entre un jeune élève de Cadenay et son professeur. Écoutez ce garçon de Cadenay présenter ce qu'il appelle son produit fini.
Pourquoi êtes-vous clochard ?
Par déception sentimentale.
Qu'est-ce que vous faites, les gars ?
Là, on écoute le produit fini. On l'a fait ce matin. Et on écoute pour voir, parce qu'on n'a pas eu le temps.
Alors, quel est votre produit fini ?
Ça fait à peu près 5 minutes, c'est sur les clochards. C'est la généralité, quoi, ce qu'ils font, pourquoi ils sont clochards, de quoi ils vivent.
Pourquoi avez-vous choisi un aspect général plutôt qu'une histoire d'un clochard ?
Il y avait une histoire d'un clochard, mais c'était très peu audible. Alors nous avons choisi les généralités, parce que c'était très bien, les généralités qu'ils nous ont dit.
Pourquoi est-ce que c'était peu audible ?
Parce que c'était un assez vieux clochard, il lui manquait quelques dents et il bafouillait un peu.
Oui, vous avez l'habitude d'enregistrer ainsi des documents ?
D'enregistrer, oui, de faire des reportages, mais les montages, moi c'est la première fois. Et je trouve que c'est assez super de passer d'un produit brut à un produit net.
Comment est-on amené de passer d'un produit brut à un produit fini ?
Parce que dans le produit, dans les reportages, il y a toujours des choses qu'on préfère plus que d'autres. Et des fois, on a moins de temps d'émission. Selon les reportages, on les fait dehors. Il y a des bruits de voiture, des choses comme ça. Il faut toujours couper parce que si on entendrait le produit brut, c'est beaucoup moins bien. Parce que le produit brut, il peut durer une demi-heure ou même une heure. Mais dans cette demi-heure ou cette heure, il y a des choses qui sont très intéressantes et des choses qui sont des banalités ou même on se répète des fois. Et voilà. Alors que quand on fait le produit net, on garde que le plus intéressant, le moins ennuyeux. Quoi.
Je vis sur la place des Corsins, comme clochard. Il m'estime bien, je garde la voiture. Je rends service aux gens, je fais les commissions pour les personnes âgées, et voilà. Je suis sur la place depuis 12 ans, comme en tant que clochard.
Qu'est-ce qu'être clochard ?
Clochard, c'est un gars qui vit comme nous, qui fait la zone, qui fait la route, qui couche dehors, et qui vit de la mendicité.
Pourquoi êtes-vous clochard ?
Par déception sentimentale. J'étais marié, et... ma femme m'a trompé et je suis tombé dans la zone.
Avez-vous une aide de l'État ?
Je n'ai aucune aide de l'État. Je garde les voitures et je gagne 10 francs, 20 centimes, 50 centimes, voilà. Je mange une boîte de cassoulet, une boîte de lentilles, un bout de pain sec, 5-6 litres, du vin, quoi.
Pourquoi vous buvez ?
Parce que c'est un besoin. Voilà. Pour oublier, pour se donner du courage, du moral.
Ce qui vous intéresse le plus, c'est le vin, non ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Je suis alcoolique. Ah oui. Voilà.
Et vos journées, elles sont faites comment ? Du lever jusqu'au coucher ?
C'est-à-dire 2-3 cuites par jour. Quand on est fatigué, on se couche. Quand on est redessoulé, on se relève et on recuite, on retombe dans l'alcool.
Et quel plaisir vous éprouvez à faire cela ?
Ça, je ne peux pas vous le dire moi-même, c'est un besoin comme ça.
Finalement, si je comprends bien, la boisson est la chose la plus grave, c'est ce qui vous conduit à être clochard finalement.
Voilà, affirmatif, oui, c'est exactement ça.
Si on arrivait à vous guérir de la boisson, vous n'auriez plus envie d'être clochard.
Je ne crois pas qu'on pourrait le faire parce que ça fait maintenant, depuis 72 que je suis sur la place des Corsins, que je bois. Et je pense pas que je pourrais m'arrêter.
Si vous jouez un air de trompette.
Après, nous avons interrogé les commerçants pour savoir ce qu'ils pensent des clochards.
Que pensez-vous des clochards ?
Des clochards ? Voilà. Bon, moi, personnellement, ils me dérangent pas.
J'aimerais bien qu'ils dégagent la place.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils se saoulent, parce qu'ils se battent, voilà. Et qu'ils perturbent la vie de la société, c'est tout.
Et est-ce que le fait que les clochards soient sur la place vous fait perdre de la clientèle ?
Oui, ça, je m'en fous, moi. C'est une question de moralité. Les gens qui foutent rien, qui ne travaillent pas, qui sont des feignants et qui se saoulent, eh bien, ceux-là, on devrait les mettre dans des camps de concentration. Et qui sont jeunes en plus. Si ce sont des gens qui sont corrects, d'accord. Mais s'ils boivent, s'ils se saoulent et s'ils se battent, comme c'est le cas là-devant...
Peut-être bien dur
alors,
avec eux.
Je suis dur avec eux, mais forcément que je suis dur. C'est la société qui peut les prendre en charge, alors adressez-vous à la mairie, que la mairie les prenne en charge, ou la préfecture, ou le gouvernement. Moi, je ne suis pas dur avec eux, je ne leur demande rien. Qu'ils fichent la paix, c'est tout.
Joël, invité au journal de la mi-journée, a réussi à communiquer l'essentiel du reportage en une minute, durée imposée au cours de cette émission.
Clochard, c'est un gars qui vit comme nous, qui fait la zone, qui fait la route, qui couche dehors et qui vit de la mendicité.
Pourquoi êtes-vous clochard ?
Par déception sentimentale. J'étais marié, ma femme m'a trompé et je suis tombé dans la zone.
Avez-vous une aide de l'État ?
Je n'ai aucune aide de l'État. Je garde les voitures. Je gagne 10 francs, 20 centimes, 50 centimes, voilà. Je mange une boîte de cassoulet, une boîte de lentilles, un bout de pain sec, 5-6 litres, du vin, quoi.
Des clochards ? Bon, moi, personnellement, ils me dérangent pas.
J'aimerais bien qu'ils dégagent la place, parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils se saoulent, parce qu'ils se battent, voilà. Et qu'ils perturbent la vie de la société. Les gens qui foutent rien, qui ne travaillent pas, qui sont des feignants et qui se saoulent, eh bien, ceux-là, on devrait les mettre dans des camps de concentration. Et qui sont jeunes en plus.
Alors, comment ça s'est passé, Joël ?
Au début, c'était un peu dur parce que déjà, pour le son, on était dans la rue, il y avait les voitures, les gens qui passaient. Mais après, on s'est vite mis en confiance aussi, on avait un peu le trac. Et puis, nos interviewés étaient très très sympas, ils ont été très gentils.
Pourquoi avoir choisi un tel thème ?
D'abord, j'en avais souvent vu, c'était très émouvant et j'avais envie de leur parler, de savoir pourquoi ils étaient comme ça et de savoir ce qu'ils faisaient.
Et alors ça vous fait quelle impression de tenir un jour un magnétophone dans votre main et de rencontrer les gens avec un magnétophone ? C'est facile ?
Oui, on s'y fait vite. Hein. Après on s'en aperçoit même plus du micro. On fait comme si on parlait normalement avec les gens. Nous on a émis sur des radios dans le pays d'Apt, Radio Bigarro notamment. Et ça fait un moment et maintenant on est rodé, on y va tranquillement, on improvise totalement.
Comme des vrais professionnels.
Oh, presque.
Voilà, alors ça se termine aujourd'hui, je crois.
Oui, ce soir, c'est fini.
Alors aujourd'hui, c'est l'heure des bilans, un petit peu, non ?
Oui.
Quel sentiment vous gardez de cette expérience ?
Ça a été très intéressant. On a appris comment les autres travaillaient, parce qu'on ne fait pas tous la même chose.
Bien, et puis je rappelle aussi que bien, vous réalisez une émission cet après-midi qui sera diffusée sur notre antenne entre 16h et 17h. Et puis donc, je vous donne rendez-vous, et bien pourquoi pas sur cette antenne et pourquoi pas sur une autre radio. Alors à bientôt et merci.
À bientôt.
Merci.
Et maintenant, d'autres conseils techniques donnés par Gilbert Paris.
Bien, alors je suis à votre disposition. Ah, vous faites ce qu'on vous a dit de faire dans les enregistrements. Vous enregistrez déjà votre minute de silence. C'est bien ça, vous y avez pensé ?
À quoi ça sert de prendre des silences ?
Ah, le silence. Lorsqu'on fait un montage et que l'on veut séparer deux idées,
pour rendre le montage plus clair. Au début, on parle de telle chose, bon, puis après, on va parler d'un autre aspect de l'enquête ou du reportage. Bon, si on a affaire à une personne qui parle assez vite et sans arrêt, on peut être gêné parce qu'on va passer d'une idée à l'autre d'une façon un peu brutale. Si on peut mettre une demi-seconde ou une seconde de silence, mais du silence du lieu, qui ne soit pas un silence artificiel, qui soit vraiment la nature de silence qu'on avait dans les lieux, si vous êtes dehors, vous risquez d'avoir le bruit du vent dans les feuilles ou des petits oiseaux. Ici, il y a une certaine qualité du son qui est due au local, donc ça, c'est irremplaçable. Alors, si on a pris un petit peu de silence, on peut prélever de ce silence. Alors, ça paraît contraignant, parce qu'on dit aux gens, bon, ben maintenant, on ne fait plus de bruit, on enregistre de silence. Alors, ça les étonne beaucoup. Alors, moi, ce que je fais, vous voyez, voilà, il va arriver une fin de bobine, là. Supposez que la personne que vous interviewez va recommencer une explication alors que vous n'avez presque plus rien sur la bobine, là. Eh bien, vous dites, ah, vous savez, on va être obligé de changer de bobine, on va reprendre sur une nouvelle bobine. Mais je vais profiter des 20 secondes ou des 30 secondes qui restent pour enregistrer de l'ambiance. Alors, je vous demande de ne plus parler et de ne pas trop bouger. Bon. Puis tu attends, tu laisses aller jusqu'au bout de la bobine. Et puis, tu as expliqué ça une fois, ce sera bon aussi pour les autres bobines. Alors, sur une fin de bobine, tu auras 30 secondes, sur une autre, tu auras peut-être une minute, ben, ça suffit. Voilà.
Le silence n'est-il pas toujours le même ?
Eh non, il dépend du lieu. Si nous étions ici 30 dans cette salle, même à ne pas bouger, on aurait une qualité de silence différente que la salle presque vide comme on est maintenant.
À quoi servent les casques dans un enregistrement ?
Ah ben les casques, justement, ça sert à écouter ce que l'on prend. Parce que nous avons deux oreilles et un cerveau derrière. Alors dans une conversation, même si plusieurs personnes parlent ensemble, avec nos deux oreilles et notre cerveau, on localise, on focalise notre attention sur la personne qui parle, même si, hein, à table au réfectoire, il y a un brouhaha, mais vous entendez bien, vous comprenez bien entre vous. Bon, si vous voulez enregistrer au micro, c'est plus la même chose. Le micro, il prend tout en bloc et après, on ne peut plus démêler. Donc, par conséquent, il faut tenir compte de ce phénomène que le micro n'entend pas comme nous. Donc, si on met un casque sur l'appareil, on saura ce que le micro a exactement capté, ce que le micro a entendu, si vous permettez l'expression. Et à ce moment-là, si c'est pas bon, s'il y a trop de bruit ambiant, si c'est pas clair, au point de vue technique, hein, je ne parle plus de ce que la personne veut dire, je parle simplement de la vérification de la qualité de la prise de son, à ce moment-là, eh bien, vous essayez de récupérer le défaut, soit en faisant cesser les bruits perturbateurs, soit en allant faire l'enregistrement ailleurs, soit en mettant encore le micro plus près, parce que plus vous le mettrez près, plus vous allez capter des sons directs et moins de sons d'ambiance, et à ce moment-là, ça vous permet de baisser un petit peu le bouton d'enregistrement et de capter un peu moins d'ambiance. Tu vois, là par exemple, ça résonne ici dans cette salle. Alors si vous m'enregistrez là et que vous poussez le bouton pour avoir un enregistrement normal, là comme ça, on va entendre une certaine résonance. Et si vous me prenez très près, comme ça, on peut baisser, vous voyez, là comme ça, même moi en parlant pas trop fort, vous aurez beaucoup moins de réverbération du local. Alors vous le constaterez à l'écoute. Alors, si vous aviez le casque, vous auriez pris conscience tout de suite, immédiatement. Donc, on peut rectifier la position avant d'avoir terminé l'enregistrement. Alors, le casque, il sert à un contrôle de qualité de l'enregistrement.
Quelques réflexions sur la voix et l'accent par des élèves suisses.
Qu'est-ce que vous pensez de votre voix ?
Eh ben, moi, je trouve qu'elle change. C'est dur à accepter un peu notre voix.
Oui, comme on n'a pas l'habitude, ouais, bah ça change quand même beaucoup. Ouais. Parce qu'on entend notre voix d'intérieur, je crois, et puis seulement quand on enregistre, on entend seulement la voix extérieure.
Bah, moi, j'écoute aussi mon accent, parce que j'écoute la façon dont je parle. Si je ne fais pas des accents, ouais. Je m'intéresse beaucoup à savoir de quel niveau est mon écoute. Mon élocution.
Qu'est-ce que vous pensez de votre accent ?
Bah, les Français, là-bas, ils ont trouvé qu'on parlait trop doucement. Ils ont commencé à se moquer de notre accent, quoi. Ils rigolaient, enfin, on ne peut pas leur en vouloir, nous, on aide même.
Okay. C'est sûr, nous, on pense que notre accent, il est parfait. Puis les autres, c'est des nuls parce qu'ils parlent mal. Mais chacun pense comme ça. C'est normal. Moi, je pense même pas que j'ai un accent. Moi, je pense que c'est les autres qui ont un accent.
Moi quand je parle français, je ne me rends pas compte que j'ai un accent. Par contre, bon, j'en ai. Hein. Mais par contre, quand je m'écoute à la vidéo ou sur bande, je me rends compte que c'est différent. Je peux me reconnaître seulement mon accent aussi.
Entre le journal et la radio, qu'est-ce que vous préférez en fait? Quelle différence il y a?
En fait, moi, je trouve bonheur les deux. Mais c'est vrai que la radio, j'aime un peu mieux que le journal. Parce qu'on peut... Ouais, c'est toujours le problème des paroles. Parce qu'on peut s'exprimer comme on veut.
Moi aussi, je préfère la radio parce que tu peux t'exprimer comme on veut. Et puis, dans le journal, les autres, ils vont peut-être pas lire comme nous, on voudrait le dire. Ils vont peut-être le lire sur un autre ton, comme ça.
Moi, j'aime bien savoir l'opinion des autres et puis donner mon opinion à moi. Parce que moi, j'aime bien que dire mon petit grain de sel.
S'exprimer et puis se faire comprendre.
Vous pensez que ça va intéresser les jeunes d'Avignon, ceux qui écoutent Radio Vaucluse, ce que vous avez dit?
Ben oui, moi je pense que ça peut les intéresser, surtout ceux qui sont jamais allés en Suisse, ou bien même ceux qui sont déjà allés en Suisse pour faire la comparaison entre ce qu'on dit et ce qu'ils ont vu.
C'est aussi marrant pour les gens de notre âge parce que on a eu une chance quand même de pouvoir participer à une émission. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent pas participer aux émissions, ouais, même des adultes, tout ça.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance que nous on a parce qu'on ne peut pas correspondre avec tout le monde. Puis là, on peut correspondre avec beaucoup de monde avec la radio.
Voici enfin un bilan réalisé par des jeunes ayant une certaine pratique de la radio.
Comment vous organisez-vous à l'intérieur des établissements? Donc, 4 lycées, 1 collège.
Mais ça, je crois que ça dépend de chaque lycée. Dans la mesure où il y a des lycées et des collèges qui travaillent avec des professeurs, ils ont une optique un peu différente. Et bon, pour notre cas, par exemple, nous, au lycée, nous n'avons pas de professeurs, nous sommes totalement indépendants. Et on prépare tout nous-mêmes. Mais il y a des lycées où les élèves sont encadrés par des profs, bon, et ça donne des résultats différents.
Même si dans certains lycées, on est mieux encadré que dans d'autres, bon, on garde toute notre liberté d'expression. Les profs nous aident souvent, surtout au niveau technique. Bon, enfin, parfois, bon, on dit des bêtises, ils nous remettent dans le droit chemin. Mais en général, ça vient de nous quand même.
Oui, je crois que les profs nous facilitent la tâche par rapport au censeur, par rapport à toute l'administration, mais qu'on reste libre de ce qu'on dit et que l'essentiel vient de nous aussi, quoi.
C'est-à-dire que bon, les thèmes sur lesquels on veut débattre, c'est nous qui les choisissons et ce ne sont pas les professeurs. Ils nous aident après, mais donc on a une liberté d'expression totale.
Je crois qu'aussi, pour certaines émissions, quand on peut se passer d'aller au lycée pour utiliser le matériel, ou par exemple l'émission que je vais faire dans 15 jours, je ne vais pas utiliser le matériel du lycée, je ne vais pas utiliser votre présence. Je peux me débrouiller sans. Elle est programmée, elle sera faite en fonction de moi-même et de mon frère, sans qu'il y ait d'intervention, sans qu'il y ait d'encadrement finalement.
Oui, moi je faire de la radio, donc puisque je suis dans les enseignants, hein, faire de la radio, c'est un plaisir, même si je n'ai pas fait une seule émission moi-même. J'ai quand même participé aux émissions. J'ai aidé à enregistrer les divers bruitages, etc. Et ça, c'est un plaisir. On n'est pas extérieur, je ne suis pas d'accord, on n'est pas une potiche, on participe, même si c'est pour simplement aider. D'autre part, moi, ce que j'ai apprécié, là, c'est qu'on travaille tous âges réunis, et ça, c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, hein. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Et il me semble qu'il y a un échange assez égalitaire entre nous, et ça, c'est très intéressant aussi.
Tu parlais justement du problème de la hiérarchie. Moi, je voudrais dire qu'on a eu pendant une année un club radio à Victor-Louis, sans encadrement, 2 professeurs. Et sans professeurs, je dois dire que l'organisation était ce qu'on peut appeler merdique. Hein, on n'avait pas de soutien du tout de la part de l'administration, justement parce qu'il n'y avait pas de prof à l'appui. Et parce que les 3/4 des gens qui sont là, bon, moi j'étais pareil, si j'avais pas été poussé par un prof, je serais certainement pas là. Que ce soit à la radio ou au club, quand il y a un professeur qui s'est occupé de la radio, ça n'a jamais été des rapports prof-élève, ça a été des rapports collègues de radio.
Ouais.
Donc que les gens ne s'imaginent pas quand ils vont venir qu'ils vont avoir un prof qui va leur dicter des ordres. On discute de tout et les décisions sont prises en commun. Et là, le vote d'un élève a autant de poids que le vote d'un prof. Et ça, je crois que c'est très important.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la radio vous a apporté personnellement ?
Ce qu'elle m'a apporté, c'est bon, des relations, certainement. Contact avec d'autres, quoi. Autant adultes qu'adolescents. Mais aussi, ça m'a permis de mieux savoir ce que c'est que s'organiser, parce que je n'en avais aucune idée. Et puis, quand il s'agit de chroniques, l'actualité, je l'ai plus dans l'œil, quoi.
Il y a une autre forme de contact qu'on a avec la radio elle-même, dans laquelle on produit notre émission. Alors, bien souvent, c'est l'occasion pour nous de découvrir une vie associative, parce que la plupart des radios dans lesquelles on est allé étaient associatives. Et ça nous a permis de rencontrer des gens passionnés par certaines choses dans le domaine de la radio. Et c'est bien, quoi.
En parlant d'association, ça nous a permis aussi de voir comment était organisée une association, comment est-ce qu'elle fonctionnait. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres gens qui font d'autres émissions, de discuter avec eux et de ce fait de nous ouvrir vers d'autres sujets auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas pu rencontrer ces gens.
Parfois même, la radio elle-même nous permet de contacter certaines personnes, des médecins ou des gens à qui on n'aurait vraiment pas pensé pour faire notre émission. Donc c'est aussi un soutien pour nos émissions.
Chaque fois que nous préparions une émission, c'était presque un peu une joie, quoi. On était heureux d'être ensemble, de trouver des éléments de réponse à des questions. Bon, c'était peut-être pas les questions fondamentales, puisqu'il faut dire qu'on avait à peu près l'âge des gens qui sont avec moi. On avait 14-15 ans, donc on n'avait pas une vue d'ensemble sur les problèmes qui pouvaient se poser à une société. Mais je sais pas, on a vraiment l'impression que nos problèmes étaient importants, qu'on avait une réponse à apporter. Je crois que ça nous a permis peut-être de nous intéresser à des sujets que si, nous n'aurions pas voulu aborder si on n'avait pas fait de la radio. Vous nous avez permis, puisque c'est vous qui avez un peu lancé l'idée, de nous faire comprendre que finalement on avait quelque chose à dire malgré notre âge. On n'était pas simplement des gens passifs à qui on devait faire ingurgiter je ne sais pas trop quoi en leur disant voilà, c'est ça que vous devrez faire plus tard. Je crois que le système scolaire fait qu'on ne laisse pas assez s'exprimer finalement les élèves. Bon, nous avons eu la chance d'être avec M. Bello qui nous a fait faire de la radio, mais je ne sais pas, bon, s'il y en a qui sont en seconde cette année. Est-ce que franchement, vous parlez beaucoup en classe ? Est-ce qu'on vous laisse exprimer vos points de vue ?
J'ai eu la chance cette année en seconde d'être 16 dans une classe. Alors ça fait que j'ai pu m'exprimer, enfin je peux m'exprimer facilement. Sinon, dans les autres classes, c'est 38, 40, alors l'expression n'est pas facile.
Moi, je te connaissais pas, je t'ai jamais eu comme élève. Un jour, je t'ai vu arriver et puis tu es plus parti, tu es resté là pendant 2 ans, je crois. Pourquoi tu es venu ?
Devant, parce que Michel m'en a parlé, elle, ça lui avait plu. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer, et on a été du même avis. Alors je suis venue, et ça m'a aidé à m'exprimer. Pour moi, ça a été quelque chose de nouveau, parce que des loisirs, j'en avais pas beaucoup.
C'était un loisir ?
Alors, pour moi, oui. Enfin, ça, en plus d'une aide, ça a été un loisir.
Donc ça ne te servait pas à faire du français, par exemple ?
Ah si, en plus, mais à l'oral, ça va déjà beaucoup mieux qu'avant que je vienne, parce que j'avais pas de moyen de m'exprimer. J'arrivais pas à dire ce que je pensais d'abord. J'avais peur de ce que dirait le professeur, s'il n'était pas d'accord avec moi. Mais là, ça va, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire que être autonome ?
Être son propre maître entièrement, ne pas dépendre de quelqu'un.
Pour nous, c'était que la mission, elle tourne grâce à nous, qu'on se débrouille seul, qu'on n'ait pas un adulte derrière nous pour nous dire, voilà, il faut faire ça, 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 ça. C'était nous qui ont décidé, mais notre technicien, c'était un jeune comme nous. Il travaillait avec nous, on était en équipe, il n'y avait que des jeunes.
Alors l'adulte, le prof responsable, il sert à quoi ?
À faire beau. Ouais, à faire beau ou...
Non, l'adulte...
Je voudrais dire que le prof qui est responsable de la radio, qui est toujours, c'est la personne qui a quand même, qui nous a permis de devenir autonome. Parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire les démarches, toutes les démarches qu'il a fait, et Dieu sait s'il en fait beaucoup.
Eh bien, d'abord, se rencontrer souvent, puis prendre des connaissances de tous les appareils, de la régie, des magnétos. Au début, on a des risques à prendre.
Ah, si tu prends le risque, là, tu es autonome, même si tu as l'enseignant qui, même si tu commets l'erreur, va te le faire remarquer. Là, c'est une véritable autonomie.
Bon, notre autonomie, pourquoi ? Ben moi, je vais dire, c'est au départ un pari. Parce que on a décidé de faire cette radio, mais avec pour but de prendre que les jeunes prennent la parole et qu'ils se débrouillent seuls pour montrer aux adultes justement ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils pouvaient faire.
C'est un peu aussi pour s'affirmer, il ne faut pas avoir honte de aussi, le dire. Hein, voilà. On désirait montrer qu'on était capable de faire quelque chose sans être sous l'autorité d'un adulte.
Ouais.
Je crois que l'autonomie que le club a actuellement est beaucoup plus grande que celle que nous avions au début. Et je crois que la notion d'autonomie que eux ont par rapport à celle que Rémi, Dominique et moi, nous avions est totalement différente.
Il y a une notion importante, il me semble, c'est que ce qui résulte de ce qui a été dit, c'est qu'on ne naît pas autonome, on n'est pas spontanément autonome, un enfant n'est pas autonome, mais que c'est, comme vous l'avez dit, en prenant des responsabilités au niveau du matériel, au niveau de la radio, etc., qu'on devient autonome. Alors si on devient autonome, ça veut dire qu'on ne cesse jamais de devenir, c'est que ça s'accroît tout le temps. Stop you coming.